France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 26 octobre, soyez les bienvenus sur France Musique. David Travailleur est à la réalisation, Stéphane Poitevin et Emmanuel Dupuy à la technique. Soyez les bienvenus dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, excusez-moi, au chant choral, à la pédagogie et au plaisir de la musique. Et le menu du jour, le voici. À 8h, Christophe Chassol apprendra à notre trio de jeunes flûtistes invités à improviser sur les modes majeurs et mineurs. À 8h15, la mezzo-soprano Isabelle Druet évoquera ses premiers pas de musicienne. À 8h20, notre reportage, Marie Gilquel s'intéressera en cette période de vacances aux spectacles qui font découvrir la musique classique aux enfants. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous parlera de polyphonie et de la Renaissance, ce sera à 8h30. Et puis notre invitée sera Floriane Côté, directrice de l'Orchestre Dijon-Bourgogne. Et enfin, Rosine Bachelot fêtera l'anniversaire de Domenico Scarlatti en toute fin d'émission. Et puis moi je vais survivre bien évidemment d'ici 9h et vous accompagner. Ce matin, je vous souhaite une très belle journée.
Thank you.
extrait du tout nouveau disque du fantastique flûtiste Emmanuel Pahuici, un extrait de ce concerto pour flûte de Karl Reinecke avec l'orchestre de la radio de Munich, Ivan Repusic, musicien donc regroupé sur ce nouveau disque intitulé Dreamtime, sorti hier chez Warner, un disque qui regroupe des compositeurs autrichiens, allemands, italiens, même japonais, programme original d'œuvres qui illustre la puissance des rêves et de l'irréel. Pas mal en ce début de journée. Et sachez que si vous souhaitez eh bien voir le flûtiste sur scène, c'est possible. Emmanuel Pahuici sera en concert le 30 octobre prochain à l'Auditorium de Radio France avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Fabien Gabel à la direction. Il offrira à cette occasion une création française, celle du concerto pour flûte intitulé Saccade de Philippe Manoury. Rendez-vous est donc pris le 30 octobre prochain ici à la Maison de la Radio. Nous allons continuer à 7h39 avec un ténor français, un incontournable de la scène lyrique française. Il s'agit de Cyril Dubois. Son premier album sort chez Aparté. Il nous tend un bouquet de leaders et de mélodies de Franz Liszt, accompagné par le pianiste Tristan Raes, et c'est parfaitement réussi.
Morgens steh ich auf und frage, kommt mein's Liebchen heut? Abends sink ich hin und klage, ausblieb sie auch heut. In der Nacht mit meinem Kummer schlaflos wach. Träumend wie im halben Schlummer wandle ich bei Tag. Träumend wie im halben Schlummer wandle ich bei Tag, wandle ich bei Tag, wandle ich bei Tag.
Franz Liszt et ce lied de Morgens steh ich auf und frage. Cyril Dubois accompagné ici par Tristan Raes, un extrait de ce tout nouveau disque paru chez Aparté en partenariat avec France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Il est 7h41 et chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre-disque, un livre pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Et bien aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous Les secrets d'un violoncelle, paru chez Little Village, la belle jeunesse d'Harmonia Mundi, un joli conte musical de Claude Clément, illustré par Cédric Apt et raconté par la comédienne Bérénice Béjot. C'est un livre qui s'adresse aux enfants qui ont entre 7 et 11 ans. C'est une histoire qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire d'un menuisier et de son petit-fils, Micha, qui héberge une femme et sa fillette qui fuient le nazisme. Juste avant de repartir, cette jeune femme leur confie un violoncelle. Et puis une rafle oblige ensuite le jeune garçon, Micha, à s'enfuir avec l'instrument, abandonnant son grand-père aux mains des bourreaux. Commence alors un long voyage initiatique. Les illustrations sont douces et au-delà du récit, le livre comprend une fiche explicative du violoncelle avec ses questions. Le violoncelle est-il trop grand pour un tout petit enfant? Ou encore, tous les violoncelles se ressemblent-ils? Les musiques du conte sont enfin jouées par des violoncellistes tels que Jean-Guyenne Queyras et Emmanuel Bertrand. Il y a donc aussi le plaisir des oreilles. Les secrets d'un violoncelle, je vous en propose un extrait ce matin. La rencontre entre Micha et son violoncelle. Écoutez. Thank you.
Misha était encore trop jeune pour s'emparer d'un instrument dont la taille était la même que la sienne. Alors, son grand-père s'assit sur une chaise, puis il invita son petit-fils à se placer debout entre ses genoux et adossa le corps du violoncelle contre le garçon à qui il ordonna. « Tu frotteras les cordes avec l'archet afin de les faire résonner. Et maintenant, voyons ce que nous sommes capables de jouer. » Étonné, le gamin constata que son aïeul n'éprouvait aucune difficulté à faire sonner le violoncelle. Les doigts de sa main gauche parcouraient le manche avec agilité au-dessus de sa tête. La paume rugueuse de son autre main enveloppait sa gracile menotte d'enfant pour l'aider à faire glisser l'archet sur les cordes à la cadence qui convenait à la musique. Vieil homme et l'instrument, une conversation secrète s'établissait. À la fin du morceau, grand-père Natty s'exclama d'un air satisfait. « C'est que je n'ai pas toujours été menuisier. Dans notre famille, nous étions musiciens de père en fils. Mais les hasards de l'existence m'ont obligé à me séparer de mon propre violoncelle. » Misha ne put réprimer son impatience. « Quand me laisseras-tu en jouer tout seul, sans m'aider ?» L'artisan ne répondit pas et reprit son échange de confidences avec l'instrument, dont la voix énigmatique donna d'étranges frissons au petit garçon.
Un extrait de ce livre-disque « Les secrets d'un violoncelle » conté par Bérénice Béjot, conte musical, joli conte musical de Claude Clément, paru chez Little Village, label jeunesse d'Harmonia Mundi, en partenariat avec France Musique. Thank you.
Thank you.
finale du 15e Quatuor en ré mineur, composé en 1783 par Mozart et achevé alors que sa femme Constance est en train d'accoucher. Nouveau disque, un extrait du nouveau disque du Quatuor Van Cuyck, deuxième volet du triptyque consacré aux six quatuors dédiés à Haydn, dans lequel le Quatuor s'est lancé il y a quelques années. Et comme à chaque fois avec le Quatuor Van Cuyck, c'est un délice. Le disque est paru chez Alpha en partenariat avec France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
À l'occasion du jour anniversaire des 334 ans du compositeur italien Domenico Scarlatti, nous vous proposons ce soir sur France Musique une soirée 100% Scarlatti, soirée qui permettra également de conclure l'aventure lancée il y a plus d'un an, c'est-à-dire l'enregistrement des 555 sonates pour clavecin de Scarlatti en 10 jours et 35 concerts. Ce soir à 20h donc, en direct et en public de l'auditorium de la Maison de la Radio, redécouvrez Scarlatti au clavecin bien sûr, mais aussi au piano, à la guitare, à l'accordéon ou encore à la trompette. Lucas Debarque fera partie des nombreux musiciens invités pour l'occasion. Et pour fêter ça, eh bien, je vous propose ce matin de gagner sur France Musique le tout nouveau disque de Lucas Debarque. 52 sonates de Scarlatti, ça tombe bien, enregistrées pour le label Sony. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous envoyez vos coordonnées, puis la bonne réponse à la question qui va suivre, et vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres. Ce matin, je vous propose de deviner le nombre de sonates écrites par Scarlatti. Trois propositions, 50, 100 ou 555. Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Thank you.
La sonate en mi majeur de Domenico Scarlatti, interprétée ici par Luca Debargue, un extrait de ce disque paru chez Sony en partenariat avec France Musique, que je vous propose de remporter ce matin en nous envoyant un petit mail. Vous vous connectez sur le site francemusique.fr, vous courez sur la page de l'émission Musique Matin, vous nous envoyez vos coordonnées et vous répondez à cette question. Combien de sonates Domenico Scarlatti a-t-il écrit? S'agit-il de 50, 100 ou 555 sonates? Votre réponse par mail, donc vous êtes déjà nombreux à participer, n'hésitez pas à tenter votre chance.
Avec le magazine Diapason, osez être classique. À la une du numéro de novembre, hommage à Jesse Norman, l'immense diva qui vient de nous quitter. Interview exclusive de William Christie, le CD événement, la splendide ode pour Sainte-Cécile de Handel, sans oublier le programme des concerts de France Musique. Diapason, en partenariat avec l'émission de Frédéric L'Odéon, Carrefour de l'Odéon, le dimanche de 14h à 16h sur France Musique. Les trésors de France Musique, de 23h à minuit, Françoise Monteil.
Hommage en archive à la légendaire Jesse Norman, lundi et mardi, dans un entretien que Claude Herrmann avait enregistré à Londres au domicile de la diva en juin 1985. Elle évoquait son amour du chant et la variété de son répertoire qui a jalonné sa carrière exceptionnelle.
Les trésors de France Musique, de 23h à minuit, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là, do, ré.
Vous allez l'adorer.
France Musique, il est 8h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 8h, c'est donc l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe Chassol.
Eh bien bonjour Saskia.
Bonjour Dounia, Rim et Quentin.
Bonjour.
Vous êtes le trio formidable. Quel plaisir de vous avoir avec nous en studio pendant tout ce mois d'octobre pour suivre les petites leçons de musique de Christophe Chassol, les grandes leçons de musique, même si elles
durent
5 minutes, des conseils, des trucs. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui d'ailleurs, Christophe ?
On va apprendre des techniques pour écrire de la musique.
Tout simplement.
Tout simplement, pour fabriquer des morceaux.
Vous avez déjà composé des œuvres, l'un d'entre vous ?
Oui, parfois.
Oui, c'est vrai ?
Bah oui, parfois ils nous demandent, les profs, en solfège ou même en flûte.
Oui, on a composé toutes les deux, comme on est dans le même cours, 8 mesures d'improvisation.
Et toi, Quentin ?
Oui, c'est à peu près pareil, on improvise, ils nous donnent des partitions, on doit les jouer.
Voilà, ils sont déjà aguerris, hein, Christophe.
Eh ben, génial.
On va pouvoir bien travailler.
Moi, ça fait longtemps que je compose de la musique je vous fais un raccourci en fait. Je vous donne mes conclusions. J'ai 42 ans, donc je vous donne mes conclusions pour que vous alliez plus vite, peut-être. Moi, ce que je trouve en fait, c'est qu'il faut déjà définir une forme. Vous voyez ce que c'est une forme? Une forme, c'est je sais pas un cercle, un carré, des petits points, un triangle. Voilà, on va définir une forme, et après on va peut-être trouver un thème, ensuite on va trouver quelque chose qui casse cette forme, et puis après on va revenir au thème. Alors je sais que ça paraît peut-être pas compréhensible tout de suite, mais vous allez voir.
Passons à la pratique.
Voilà. Alors pour trouver un thème, je vous oriente un petit peu, hein, mais d'abord on va répertorier le matériel qu'on a. Vous faites des effets, vous, avec vos flûtes ?
Oui.
Vous faites quoi comme genre d'effet ?
On fait des pids.
Des quoi? Des pizzas?
Oui, c'est comme ça, avec la...
Mais des pizzas à la flûte? Ah, je savais pas que ça s'appelait pizza. Vas-y.
Après, on fait des timbres, on met le doigté d'une note grave et...
Super. Et quoi d'autre?
On fait aussi des soufflements comme...
Avec beaucoup de souffle? Vous connaissez aussi on peut faire la beatbox aussi avec la flûte. Vous savez faire des rythmes en même temps qu'on joue. Vous avez déjà fait ça ?
On n'a jamais fait.
Bon, vous tapez beatbox, flûte sur YouTube et vous allez trouver tous les gars qui font ça. Bon, on va essayer de placer quelques effets tout à l'heure. Mais alors déjà, on va trouver un thème. Alors comment on trouve un thème ? Dounia, chante-moi le premier truc qui te vient. N'importe quoi. 5 notes, on va dire.
Do, mi, sol, do, do.
Ok, stop. Do, 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 do. Alors c'était pas do mi sol, mais c'était la si do la mi. Mais c'est pas grave, moi t'as fredonné ça. On a rime, pareil, s'il te plaît. Et alors, bah, t'as qu'à finir la mélodie, tiens, Quentin. Et puis
do, ré, mi, fa, sol.
Bah, attends, c'était pas do, ré, mi, fa, sol que t'as fait là. Vas-y, chante vraiment quelque chose. Mais t'es pas obligé de dire les notes, hein. Fredonne.
La, 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 la.
Donc on a la, te, do, la, ni, la, do. C'est ça. Donc on a ça. Ok, bon, ça peut faire une composition, ça. Alors, déjà, vous allez me jouer la, si, do, la, mi, ré, do. C'est la bémol, si bémol, do. Vous savez jouer ça? Vous voulez qu'on le fasse avec la, si, do, la, mi, ré, do? Peut-être c'est plus facile avec un la, la, si, do, dièse, la, mi, ré, do, dièse. Encore, encore. Encore. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait là, par exemple, en dessous de votre mélodie?
Les accords?
Ouais. Et en fait, j'ai fait se répéter votre mélodie, mais j'ai changé les accords à chaque fois. Et donc, ça marche tout le temps. Ça fait ça. En fait, je suis parti du La, de la première note à la basse, et j'ai fait que descendre pour revenir au La. Vous avez vu comment on est aimanté par le La? Ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer de me placer cette mélodie, moi je vais jouer, vous allez essayer de me placer cette mélodie et de faire tout ce que vous voulez par-dessus. Vous pouvez crier dans la flûte, à des moments, placez-moi cette mélodie, si vous pouvez, ok? L'idée c'est que vous voyez comment on peut jouer avec une mélodie, la tordre dans tous les sens. Bon,
enfin, et en l'inventer, tout cas, surtout.
Oui, voilà. En fait, il y a pas vraiment d'invention. En fait, il y a juste s'attarder à travailler quelque chose qui a toujours été là. C'est-à-dire n'importe quoi va marcher si on se met à le travailler. En fait, je peux chanter n'importe quoi si j'arrive à retenir ce que je viens de chanter, ce n'importe quoi. C'est arriver à le retenir et arriver à le reproduire qui va faire que ça va devenir une composition. Saskia, vous avez... dites-moi n'importe quoi.
Je parle ou je chante?
Je parle ou je chante? Écoutez ça. Je parle ou je chante, c'est ça?
Ouais.
Je parle ou je chante? Je parle ou je chante? Ta-na. Je parle ou je chante? Et voilà, on a un morceau.
Je savais que j'avais l'âme d'une compositrice en moi, Christophe.
Ouais, tout le monde a tout. Cette âme.
Il faut peut-être inviter le trio formidable à faire une série de concerts avec vous, hein, Christophe. Ça pourrait se travailler sur scène devant un public en lien.
J'ai pas le budget pour eux. Là. Mais bon, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais ça m'a fait beaucoup très plaisir, en tout cas, que vous soyez là. On va continuer à jouer un petit peu là, hors antenne.
Pour le plaisir, Dounia, Rime, Quentin, 12 ans, le trio formidable du Conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers, la Courneuve, qui nous accompagnait pendant tout ce mois d'octobre. Merci, merci, merci à tous les trois d'être venus en studio avec nous sur France Musique. Et on espère avoir de nouvelles très très vite. Bien évidemment, à très bientôt.
Au revoir. Merci, Nesca.
Au revoir.
Un fromage,
monde se sent pas de joie et pour montrer sa peine.
Vous avez peut-être reconnu ce texte, Le corbeau et le renard, l'une des célèbres fables de Jean de La Fontaine, que Jacques Offenbach a mis en musique en 1842, environ 150 ans après leur rédaction. Le corbeau et le renard, interprété ici par la mezzo-soprano Karine Dehaye, le chef Jean-Pierre Hack et l'orchestre de l'Opéra de Rouen. Musiciens qui seront en concert avec le programme de ce nouveau disque qui paraît chez Alpha en partenariat avec France Musique. Ce sera le 20 novembre à l'Opéra de Massy. Et puis les 21 et 23 novembre toujours au Forum du Blanc-Mesnil. Et puis une annonce déjà de la journée que nous consacrerons à Karine Dehaye sur France Musique. Ce sera le 14 novembre prochain. On vous en reparlera très très vite, c'est promis. Il est 8h et 11 minutes.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pour n'en fais pas.
Et dans cette émission, nous nous intéressons aux pratiques amateurs, aux chants chorales. Au chant choral, ça, ce sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéressons à la pédagogie, à la transmission, à ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir. C'est d'ailleurs par là que tout a commencé pour les musiciens professionnels. Alors ce matin, j'ai demandé à la mezzo-soprano Isabelle Druet de nous raconter ses débuts et l'impact de la musique sur sa vie.
Alors, ce que me procure la musique, je pense qu'au départ, c'est quelque chose de physique, de l'émotion un peu brute, juste liée au son, en fait, au son qu'on crée, à toutes ces possibilités. Moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée, ce qui m'a plu au début quand je me suis dit que je voulais être chanteuse, quand j'étais assez jeune. Et d'ailleurs, y a un moment où je me suis, avant de partir dans le chant lyrique, j'avais envie d'explorer vraiment le son et toutes les possibilités de ma voix, et presque faire des chansons sans forcément avoir de mots ou de paroles ou de choses à véhiculer autre que le son et ce plaisir d'explorer et de donner des sensations aux autres. Et puis après, évidemment, quand j'ai découvert aussi tout ce qui était écrit comme musique ou tout ce qu'on pouvait écrire, mais en tout cas, moi, je fais de la musique qui est déjà composée. Donc, comme j'adore aussi la poésie, c'était génial de voir qu'il y avait des compositeurs qui s'étaient penchés sur comment mettre des mots en musique. Et dans ce cas-là, après, je trouve que c'est formidable d'avoir et un texte, un sens à défendre, et qui soit porté par un son qui n'est pas le son de la voix parlée, quoi. Donc, on explore complètement autre chose. Donc, je trouve que ça double encore les sensations, les émotions, et voilà, les vibrations. Mon tout premier cours de chant, parce que moi j'ai commencé assez tard, donc j'ai pas fait de formation musicale. Enfin si, je me souviens que j'ai fait un an de flûte traversière quand j'étais au collège, mais déjà on m'avait mis avec les CP en solfège, alors je me souviens que j'avais les genoux qui dépassaient les tables parce que c'était table d'école primaire. Donc ça c'est un souvenir de voilà un petit peu où je me disais où est-ce que j'ai raté le coche. Et puis après plus tard, donc j'ai pris des cours de chant justement pour explorer un peu ma voix. Et oui, je me souviens de cette sensation de faire des vocalises et tout à coup, voilà, découvrir un peu autre chose, de se dire tiens, jusqu'où ça va, de pas trop savoir où tout ça mène, et puis de prendre beaucoup de plaisir en fait, de comme ouvrir une porte quoi sur un nouveau monde. Et j'ai eu plusieurs professeurs de chant, mais pas tant que ça finalement. En fait, j'ai eu une première professeure de chant qui m'a appris beaucoup de choses et qui n'était pas forcément dans mon univers, parce que moi, à ce moment-là, je faisais beaucoup de théâtre, de chant, mais pas du tout classique. Donc, elle était un peu à me recadrer tout le temps. Et puis, après, j'ai eu un professeur à Paris qui était un homme, donc c'était bien. J'avais pas du tout d'identification par rapport à la voix et ça, j'ai beaucoup apprécié. Je me sentais plus libre, en fait, tout en ayant quelqu'un qui me guidait. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui travaille aussi beaucoup sur le corps, donc ça me parlait, parce que voilà, la danse, le mouvement, ça... Et voilà, ça m'a libéré de beaucoup de choses aussi, parce que avec ma première professeure de chant, je me posais beaucoup de questions. Avant même de faire un son, j'en étais arrivée à me dire, alors est-ce que si, est-ce que ça? Et lui, bon, il est arrivé, il a balayé un peu tout ça en disant, allez hop, tout en construisant une base solide, de pas trop se prendre la tête et d'être peut-être plus dans la sensation que dans la réflexion. Et puis après, c'est lui qui m'a orientée vers le CNSM et vers la prof de chant que j'ai eue au CNSM pendant toutes mes études, qui était Isabelle Guillot, et qui, voilà, ça a été une relation formidable parce que c'était simple, humain, drôle, on s'est vraiment trouvés. Et puis, c'était très rigoureux aussi. Donc, voilà, un peu l'idéal, quoi, pour moi, en tout cas. Alors, un conseil à donner aux jeunes chanteurs, aux chanteurs amateurs, c'est de jamais perdre le plaisir, en fait, je dirais. Et puis de se dire que, ben voilà, il faut travailler, enfin, voilà, ça se fait pas tout seul. Il y a des choses tout à coup qui arrivent, on découvre et c'est génial, ça va très vite au début. Et puis après, quand on se met à bloquer, de pas désespérer, de pas baisser les bras, de se dire, ben, de toute façon, ça peut qu'avancer, que progresser. Et du coup, de le faire dans le plaisir. Parce que parfois, c'est pas toujours évident. Et voilà. Du coup, de rester positif.
Steh auf, du süße Maid, steh auf. ans Fenster trieb, das weiß sie drum, steh auf und habe deinen Finger lieb, du süße Maus, steh auf und habe deinen Finger lieb, du süße Maus, steh auf, steh auf, steh auf. Du süße Mari, steh auf, steh auf, steh auf. Du süße Mari, steh auf.
De Franz Schubert, interprété ici par Isabelle Dru, accompagnée par Anne Le Bozec. Il est 8h21 sur France Musique, c'est l'heure de notre reportage.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia.
En pleine vacances de la Toussaint, intéressons-nous ce matin aux spectacles qui font découvrir la musique classique aux enfants. Marie, alors on connaît la valse des fleurs de Tchaïkovski, la valse numéro 2 de Chostakovitch.
Et oui, et connaissez-vous Saskia, la valse des poussettes?
Ah non, celle-là je la connais pas, non.
Eh bien, elle a eu lieu dimanche matin devant le Conservatoire d'art dramatique. Cela se trouve dans le 9e arrondissement de Paris. Des jeunes parents avec de très jeunes enfants se pressaient, enfin un vrai ballet de poussettes, pour assister au bébé concert proposé par l'orchestre L'Amoureux, un concert d'une demi-heure réservé aux bébés dès leur naissance.
Alors aujourd'hui c'est ballet russe, donc on a choisi des extraits des célèbres ballets de Tchaïkovski, donc il y aura des extraits du Lac des Cygnes et de Casse-Noisette.
C'est dans la bibliothèque de ce théâtre, celle où travaillait Hector Berlioz, que je rencontre Anne-Sophie. Elle est altiste à l'orchestre L'Amoureux. Elle se charge de la programmation des bébés concerts et veille au confort de ses très jeunes spectateurs.
Ils sont exigeants, il faut faire attention à eux. Par exemple, il faut faire attention à la lumière qu'on met dans la salle, parce que si c'est tout noir, on va entendre des cris, des pleurs, les bébés peuvent avoir peur, donc on est très attentif à leur réaction. En fait, il est adapté aux enfants dans le sens où les extraits sont assez courts. On alterne des extraits de musique un peu vivante, un peu plus calme.
Un spectacle pour éveiller les minuscules oreilles de ces nourrissons. L'écoute est assez libre, hein. Pour eux, ils peuvent se balader entre les rangées, se faire de nouveaux petits copains.
Et jouer avec les strapontins, s'étonner du son de la harpe, et puis tenter, sans le vouloir, de déconcentrer les musiciens sur scène par leur petit babillage.
On sait qu'il va y avoir des gazouillis, des petits pleurs de temps en temps, ça arrive, des promenades, et nous, c'est ça aussi qui rend l'expérience intéressante, puisqu'on n'a pas l'habitude de jouer devant des bébés, donc c'est hyper touchant.
La foule est en délire, là. Merci Marie, passons maintenant à un spectacle didactique cette fois. Musique pas bête, du théâtre musical pour expliquer les bases de la musique classique. Cela se passe au studio des Champs-Élysées à Paris.
Vous avez besoin d'un dépannage technique. Une question à propos de la musique. Tu te trouves perdu et il y a un hic. Vas-y, parle après le bip 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 bip.
Et oui, Saskia, une charmante parenthèse destinée aux enfants plus âgés en cette fois-ci, proposée par un ancien journaliste de France Musique, Nicolas Lafitte. Lui et le multi-instrumentiste Lionel Romieux incarnent deux rigolos qui tiennent le répondeur de SOS Musique. Les enfants peuvent y poser toutes les questions liées à la musique classique qu'il a inventée, d'où vient le jazz, à quoi sert la musique. Un spectacle dynamique et amusant. Par exemple, Saskia, j'ai appris comment fonctionnaient nos cordes vocales
Alors là, je vous avoue qu'elle fonctionne pas beaucoup.
Un petit peu moins.
Et j'ai appris cela grâce au fil du téléphone de ce répondeur. Nicolas Lafitte sait que son public est exigeant.
SOS Musique, bonjour, quelle est ta question ? Quoi ? Un exposé sur la musique classique en 4 minutes 33, mais c'est dégueulasse ! Et en plus, elle est très sévère, cette prof ! Non, ne panique pas, ne panique pas !
En fait, c'est pas évident de trouver cet équilibre entre le surjeu qu'on a vraiment envie de donner, parce qu'on est face à des enfants, et du coup, ça donne envie de parler comme ça, tu sais. en fait, de rester dans son personnage, et puis en plus, on n'a pas du tout envie de les prendre pour des imbéciles, on a envie de faire du vrai théâtre, quoi.
Alors, pour captiver les enfants, il leur fait découvrir l'univers de la musique classique, parfois poussiéreux à leurs yeux et leurs oreilles. Quelle est la bonne recette ?
Bien celle que Nicolas Lafitte a appliquée. Des décors astucieux, un peu à la C'est pas sorcier, l'émission de Fred et Jamy. Des gags désopilants, des personnages très expressifs. Et enfin, une intrigue musclée.
C'était un pari de se dire, alors, on va faire du théâtre musical avec une histoire, une narration, mais à l'intérieur de laquelle on va expliquer plein de choses et ça va être un spectacle quand même très didactique. Je pense que ça marche par le biais du pitch, en fait, qui est que Zorro, que joue Lionel, et Félix, que je joue, sont là pour répondre aux questions que les enfants se posent parce qu'ils tiennent la permanence téléphonique de SOS Musique. Et je crois qu'en fait, ce petit début, ça marche bien, en fait, pour toute la trame de l'histoire et pour amener toutes nos réponses, même un peu savantes.
Et puis, pour attirer les enfants dans la marmite de la musique classique, quoi de mieux que de revenir au chef-d'œuvre des incontournables adaptés en ce moment pour le jeune public. Mon premier Lac des Cygnes au théâtre Mogador, l'indémodable Pierre et le Loup aux Folies Bergères, et puis un spectacle sur Beethoven à la Philharmonie.
Bon, et alors Marie, les enfants sont-ils conquis ?
Eh bien, à la sortie de Musique pas bête, nous trouvons des jeunes spectateurs émus aux tripes.
Il y avait deux messieurs qui faisaient un spectacle sur la musique.
Il y a eu des moments sympas, drôles ?
Oui, un monsieur qui a fait de la guitare n'importe comment et très fort.
Je viens de voir des musiciens qui jouaient de la guitare, du saxophone, de la guitare électrique.
Il a appris des choses ou pas ?
Oui.
Quoi comme chose ?
Il m'a appris la chanson du jazz. Il faisait la musique très fort. Il faisait tellement bien que j'ai failli vomir.
D'accord. Une vocation de lancer peut-être. Grâce à ce spectacle, Musique pas bête à découvrir donc au studio des Champs-Élysées. Il y a des dates prévues jusqu'au mois de décembre. Et puis ces bébés concerts dont vous nous parliez, Marie, qui continuent évidemment dans plusieurs salles à Paris. Alors j'ai regardé, hein, il y a plusieurs dates à venir mais qui sont complètes. Le prochain concert auquel vous pouvez vous inscrire avec votre tout petit, ce sera Salgavo, le 21 janvier à 10h. Plus d'infos sur le site de l'Orchestre d'Amour. Merci beaucoup Marie pour ces suggestions de sorties culturelles avec les enfants. Et on vous retrouve très vite sur France Musique. Bonne journée. Belle journée.
Thank you.
quelques mesures des Tortues, extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, interprété notamment au piano par Martha Argerich. Il est 8h30. C'est l'heure de la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia. Alors aujourd'hui, je vous dis bonjour, mais accompagné de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Roland de Lassus, et qui va se joindre à moi pour vous dire bonjour, et puis quelle nouvelle.
J'aimerais bien voir ça au saut du lit, moi, personnellement.
Écoutez, c'est une musique géniale. À la Renaissance, il savait parler de tout, à la fois du sacré, du profane, et le mettre en musique. Alors, aujourd'hui, on va découvrir une toute petite partie de ce répertoire génial, qui est en fait considérable. Il est très vaste, puisque, en fait, toute l'Europe, au 15e, 16e siècle, s'est lancé dans la polyphonie vocale avec des choses sublimes, absolument sublimes. Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'ils ont partagé un langage assez commun ou proche d'un pays à l'autre.
Alors pourquoi est-ce que ces musiciens voyageaient plutôt?
Oui, ils voyageaient beaucoup, ils suivaient les cours princières ou royales, et donc il y avait des brassages extraordinaires de musiciens, d'échanges, d'écoutes, de partitions, etc. Et on sait par exemple qu'au XIVe siècle, Guillaume de Machaut est allé en Lituanie. On ne sait pas très bien s'il est allé à pied, à cheval ou autrement, mais en tout cas, ça, c'est une des preuves que très tôt, au fond, il y avait ces échanges de musiciens. Alors là, on va faire un petit détour par l'Angleterre avec une chanson d'amour de Dowland qui en a écrit beaucoup et des sublimes.
Come again, sweet love doth now invite thy graces that refrain to do me due delight to see, to hear, to touch, to kiss, to die. Sweetest sympathy to see, to hear, to touch.
Pourquoi ces musiques ne sont-elles pas davantage connues, Marc-Olivier?
Je ne sais pas vraiment. Je pense que peut-être c'est le fait que ça soit très loin dans le temps, mais en fait c'est très proche de nous. Et d'ailleurs Sting, des chanteurs de la pop, du rock, s'en sont emparés parce que c'est un langage d'une simplicité et très accessible, absolument formidable. Mais ça devrait être beaucoup plus connu du grand public et aussi, vous voyez mes arrière-pensées, beaucoup plus utilisé dans l'enseignement du solfège, de la formation musicale.
Pourquoi?
Parce que d'abord elles sont magnifiques, ce qui est le premier critère, et ensuite parce que on peut trouver des choses adaptées à tous les niveaux, avec un vocabulaire très simple, des rondes, des blanches, quelques petits ornements, des lignes mélodiques absolument mémorisables facilement, et de quoi rendre l'apprentissage du solfège joyeux et plaisant. Miraculeux, non?
Ben oui.
Ce mois de mai, je vais vivre.
On écoutait ici l'ensemble Clément Jeannequin avec ce mois de mai de Jeannequin, justement, compositeur, chanteur, prêtre français du 15e siècle pour illustrer cette chronique. Merci beaucoup Marc-Olivier pour ces découvertes, pour ces pistes aussi, pour ceux qui souhaitent se lancer dans le solfège, hein, des chansons faciles à apprendre, à mémoriser, évidemment. Et puis, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, Marc-Olivier, on va faire un petit saut dans le temps, un siècle plus tard, avec toujours de la musique vocal, bien sûr, j'imagine que vous connaissez Les Cris de Paris.
Mais oui, c'est une merveille.
Exactement, avec Geoffrey Jourdain à la direction, un extrait de leur tout nouveau disque qui paraît chez Harmonie Mundi en partenariat avec France Musique. Adoramus te Christe, Claudio Monteverdi, interprété ici par Geoffroy Jourdain à la tête des Cris de Paris. Nouvelle aventure pour cet ensemble qui nous emmène au cœur de la musique baroque vénitienne sur ce nouveau disque Passion, paru chez Harmonia Mundi. Il est 8h40, c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Floriane Côté.
Bonjour Saskia.
Vous êtes directrice de l'orchestre Dijon-Bourgogne, vous êtes notre invitée du jour. Bienvenue dans Musique Matin, quel plaisir de vous accueillir. Mais tout d'abord, comment se porte l'orchestre Dijon-Bourgogne?
Mais l'orchestre va à merveille. L'orchestre a 10 ans aujourd'hui sous cette forme. Alors avant c'était un orchestre d'opéra, une camerata, et en 2019, ça fait 10 ans que l'orchestre existe sous cette forme Orchestre Dijon-Bourgogne. Donc c'est une saison particulière pour nous. Parce qu'elle voit aussi la fin du travail de notre directeur musical Gergely Madaras de ces 5 dernières années. Donc c'est une période de transition, et comme toute transition, il y a beaucoup de positifs, parce que d'une part c'est aussi une période de bilan, et on voit que Gergely a amené l'orchestre à un niveau artistique je crois jamais encore atteint par l'orchestre, puisque du coup ils ont développé tout un répertoire symphonique qui n'était pas forcément encore dans l'ADN de l'orchestre. On a aussi la chance d'avoir une salle de spectacle à l'Opéra de Dijon, à l'Auditorium, qui est une acoustique absolument formidable. Donc commencer tout son orchestre construit aussi en fonction de son écrin, de son lieu de travail. Et c'est vrai que pour nous, c'est une extrême chance de pouvoir travailler dans des conditions aussi exceptionnelles à l'Opéra de Dijon. Donc tout ça font un tout finalement où on a sur un bilan, en tout cas sur la force artistique, les forces permanentes de l'orchestre qui sont vraiment en évolution. Et puis, comme c'est d'une transition, le deuxième élément aussi, c'est que c'est aussi maintenant, à la suite du départ de Gergely en juin dernier, toute une phase un petit peu de repositionnement, qu'est-ce qu'on cherche pour la suite, quelles sont les valeurs de l'orchestre. Ça, c'est très important pour nous aussi de, aujourd'hui, re-questionner quel format, quelle dimension on donne à cet orchestre. Et c'est vrai que aujourd'hui on répond à ces questions de manière tout à fait diverse et variée, comme vous pourrez le voir après dans le détail de la programmation de la saison.
Et on va en parler.
En tous les
bien
cas, voilà, on en parlera plus en détail. Mais disons, l'objectif, c'est vraiment de montrer un orchestre protéiforme qui est autant actif sur de la création contemporaine, mais qui peut aussi oser d'autres répertoires en mêlant des genres pas forcément voisins, comme le hip-hop par exemple, sur des projets aussi un petit peu transverses. Et puis surtout, je crois que pour nous, ce qui est surtout essentiel pour donner aussi un sens à tout cela, c'est les publics, c'est sortir évidemment de notre écrin, de notre salle de concert qui est formidable, mais il faut aussi aller dans les zones un petit peu prioritaires, aller accéder à des publics qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir écouter cette musique. Donc voilà, ça c'est aussi un petit peu, on va dire, dans le format, nos objectifs aujourd'hui à Dijon.
Cette diversité du répertoire de l'orchestre Dijon-Bourgogne, vous le disiez, du hip-hop à la création, et puis l'opéra aussi, et bien l'opéra qui occupera les murs de l'Opéra de Dijon très prochainement avec l'orchestre, ce sera Péléas et Mélisande de Claude Debussy.
C'est étrange, je vais lui obéir, à même l'écouter pleurer de joie. Tu ne t'en es pas aperçu, toute la maison semble déjà revivre, on entend respirer, on entend marcher. Parler derrière cette porte. Vite, réponds vite. Où te verrai-je?
Où vas-tu?
Dans le parc, près de la fontaine des saveurs. Veux-tu? Viendras-tu?
Oui.
Ce sera le dernier soir. Je vais voyager comme mon père l'a dit. Tu ne me verras plus.
Ne m'y passera, Péléas. Je te verrai toujours. Je te regarderai toujours.
Tu auras beau regarder, je serai si loin que tu ne pourras plus me voir.
Que t'irons-nous, Péléas? Je ne comprends plus ce que tu dis.
Va-t'en! C'est pas vous!
j'entends parler derrière cette porte.
Un extrait de Pélias et Mélisande de Claude Debussy, œuvre qui sera à l'affiche de l'Opéra de Dijon à partir du 6 novembre jusqu'au 10 novembre d'ailleurs à l'auditorium de l'Opéra de Dijon avec Floriane Cotet, directrice de cet orchestre qui est notre invitée aujourd'hui, ensemble associée à l'Opéra de Dijon, une relation donc particulière aussi avec cette maison.
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est 80% de notre activité qui se fait à l'Opéra de Dijon. Donc cette saison, c'est principalement en lyrique. On a quand même 3 productions lyriques en 19-20. C'est une de plus que ce que nous avions pu faire les autres années. Donc en plus, ça sera sur un travail de création. Donc pour nous, c'est particulièrement intéressant aussi de pouvoir être associé à ce type de programmation de l'Opéra de Dijon. Et puis évidemment, en symphonique, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire découvrir d'autres répertoires, de travailler notamment avec le chœur de l'Opéra de Dijon, avec qui nous avons une excellente relation. Nous avons 2 projets avec eux cette année, un qui était hors les murs de l'Opéra et puis un en décembre prochain avec le Requiem de Duriflé. Donc c'est vrai que ça nous permet de faire ce lien aussi qui est très important pour nous sur le territoire de Bourgogne, puisque sur nos 3 projets symphoniques, il y en a un donc avec le chœur, et puis un autre qui est un projet qui est très important pour nous aussi, puisqu'il s'agit d'insertion professionnelle. On a la chance d'avoir aussi à Dijon l'École supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté.
Et vous parliez de création, justement, tout à l'heure, ce sera le cas avec cette œuvre menée avec ses étudiants, Les Châtiments, œuvre de Brice Posé, ce sera au mois de février.
Oui, alors tout à fait. Alors ça, c'est un projet de création qui est tout à fait intéressant, puisque Brice Posé s'est interrogé sur les textes de Kafka. Il se base, en fait, ce sera une espèce de triptyque sur les 3 textes. Donc il y a Sauf erreur, la métamorphose, le verdict, et puis et puis la colonie pénitentiaire, voilà. Et donc c'est ces 3 textes qui sont mis en musique par Brice Posé. Et nous aurons la chance d'avoir à la direction de l'orchestre Emilio Pomarico. Et puis à la mise en scène, David Lescaut. Donc c'est une création tout à fait exceptionnelle pour nous, avec un orchestre très conséquent. Il y aura des tubes, enfin voilà, il y aura énormément de monde en fosse. Donc c'est évidemment un projet qu'on attend avec impatience. Les partitions sont en cours de livraison, donc c'est vrai que tout le monde a un petit peu attente de voir ce qui va s'y passer.
Ce qui va se dessiner. Et puis il n'y en aura pas pour Dijon d'ailleurs, puisque cette création voyagera en Bourgogne-Franche-Comté à Chenôve, ce sera le 17 février, et à Auxerre le 3 avril. Un orchestre qui voyage, vous évoquiez il y a quelques instants, Floriane Cotet, ses activités hors scène. Est-ce qu'on peut parler de musicien itinérant?
Oui, alors je pense que... Alors, un musicien de base, c'est vrai que c'est quand même la profession de musicien, de toute façon sur la route, beaucoup. Et c'est vrai qu'on essaye au maximum de pouvoir être mobile, autant dans ses déplacements, mais dans l'ouverture d'esprit. Et je crois que pour nos musiciens, c'est très important aussi, cette mobilité-là, puisqu'elle nous permet de nous produire dans des hôpitaux, mais aussi de faire des répétitions ouvertes dans des quartiers prioritaires, devant des enfants qui n'ont pas forcément accès à un orchestre. C'est toujours très, très impressionnant. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'être partout, mais en même temps de le faire toujours avec beaucoup de qualité, beaucoup de soins, de vraiment travailler aussi ces préparations-là pour que ça soit pas uniquement juste un one shot où l'orchestre arrive et repart. Donc c'est vrai que le travail de préparation en amont est très important pour nous aussi, et nos services d'action culturelle font un travail remarquable à cet endroit-là. Et c'est vrai que l'idée, c'est de s'ancrer aussi de manière plus durable, par exemple avec un projet que nous menons maintenant depuis plusieurs années qui s'appelle l'Orchestre des Quartiers. C'est un démos en version dijonnaise, un petit peu plus réduite, voilà, mais disons c'est un peu les mêmes principes avec des cours collectifs. Et puis les instruments qui nous ont été donnés par le fonds musical du festival Musique et Vin au Clos-Vougeot. Donc les enfants ont cet accès-là.
10 ans pour l'orchestre Dijon-Bourgogne, donc, avec une programmation riche. Hein. On aurait pu encore parler de cette Escape Game Mozart, qui me rend très curieuse, qui sera organisée le 1er décembre, ou encore de ces concerts de musique de chambre, évidemment, qui sont donnés un petit peu partout. Je pense notamment à ce concert qui sera donné le 3 novembre prochain, c'est tout prochainement, à l'église de Saint-Léger sous Beuvray, dans le Roussillon, en Morveux. C'est à 15h. Vous trouverez évidemment la programmation détaillée sur le site de l'orchestre www.orchestredijonbourgogne, tout en attaché.fr. Floriane Côté, merci beaucoup d'être venue nous parler de votre ensemble ce matin. Et puis bonne journée, bonne continuation et joyeux anniversaire surtout.
Merci beaucoup Saskia.
À très
bientôt. Merci pour l'invitation.
Le final de la sonate pour flûte, alto et harpe de Claude Debussy, œuvre qu'on pourra entendre lors de ce concert de musique de chambre organisé par les musiciens de l'orchestre Dijon-Bourgogne. Ce sera le 3 novembre prochain, l'église de Saint-Léger sous Beuvray, dans le Roussillon, en Morveux, à 15h. Et puis je vous rappelle aussi cette production de Péléas et Mélisande de Claude Debussy à l'Opéra de Dijon, dans une mise en scène d'Éric Ruff et dirigée par Nicolas Kruger. C'est à découvrir à partir du 6 novembre. Il est 6h, qu'est-ce que je raconte? Il est 8h54. c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
J'avais imaginé que vous viendriez ce matin dans ce studio avec un gâteau anniversaire.
J'y ai songé Saskia, mais j'aurais eu quand même du mal à y caser 334 bougies.
C'est vrai que c'est pas mal.
Et oui, aujourd'hui Saskia, nous fêtons l'anniversaire de Domenico Scarlatti. Et de quelle manière? Ce soir, présenté par Clément Rochefort, se tient un concert gratuit, entièrement dédié au grand napolitain, né le 26 octobre 1685, la même année que Bach et Handel. Handel, dont il fut d'ailleurs l'ami. Ce concert, sans jeu de mots, sera en quelque sorte le point d'orgue d'une opération lancée par notre directeur de France Musique, Marc Voinchet. L'enregistrement des 555 sonates de Scarlatti en 2018, lors de 35 concerts donnés par 30 clavecinistes lors du festival Radio France Occitanie. Marc est venu sur cette antenne présenter ce défi parfaitement réussi. Je crois qu'il est venu hier matin. Alors ce soir, cette Scarlatti Night Fever va nous enflammer avec un Scarlatti complètement revisité, par Bell au claveciniste bien sûr, mais aussi au pianiste, guitariste, trompette, de la mandoline, et tenez-vous bien, nous aurons aussi de l'électro, des claquettes et du flamenco. Ça va déménager dans le grand auditorium et nous en aurons toute la saveur sur les ondes de France Musique dès 20h. C'est un sacré loulou de notre Domenico, il mérite bien une soirée hors norme. Alors je vais tomber un peu dans le pia-pia, un pia-pia qui ne sera sans doute jamais vérifié, mais cette production ébouriffante de 555 sonates serait liée en fait au paiement de dettes de jeu. Le Lascar fréquentait assidûment celle de Pharaon et de Trictrac et n'était pas vraiment chanceux. Il se tournait donc vers sa protectrice, la reine d'Espagne, et la remboursait en composant une sonate. Il a dû beaucoup jouer, hein. Généreuse mécène donc. Mais puisque j'ai commencé dans le style Press People, je continue. Certains se demandent ce que notre Napolitain allait faire en Espagne. En fait, il avait quitté Rome et les compétitions musicales où il se plaisait à affronter Handel dans le palais du cardinal Ottoboni pour assurer à Lisbonne le poste de maître de clavecin de Marie-Barbara de Bragance pendant quelques années. Des mauvaises langues assurent qu'il eut peut-être une love affair entre Domenico et Marie-Barbara. Pourquoi pas après tout? En tout cas, quand celle-ci épouse Ferdinand, l'héritier du trône d'Espagne, il la suit d'abord à Séville, puis à Madrid quand elle devient reine d'Espagne. Celle-ci restera sa protectrice et sa bienfaitrice avec une fidélité qui semble bien accréditer à tout le moins une amitié qui dépassait sa fonction de maître de musique. J'en reste là. Oui, dans le chapitre ragot. Mais donc, point de supputation sur la vie privée de notre star du clavecin. Ce qui est plus intéressant est l'aspect cosmopolite de Scarlatti. Dans cette Europe du début du XVIIIe siècle, il est partout. À Venise, à Rome, à Florence, à Lisbonne, apprend le flamenco à Madrid, file à Londres pour diriger un de ses opéras au King's Theatre. S'il vous prend d'écouter l'intégrale des 555 sonates, faudra évidemment prendre son temps, il a fallu 34 CD à Scott Ross pour le faire et 39 à Richard Lester, vous pourrez juger du caractère polymorphe de cette musique, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la forme classique de la sonate, mais plutôt la forme d'une suite avec des trouvailles innombrables, tant dans les sources comme celles de la musique populaire, des dissonances d'une modernité insensée, une richesse mélodique et rythmique qui laisse pantois. Tout cela demande la patte de grand virtuose, ce qu'était Scarlatti qui composait pour lui d'abord. Alors vous allez en juger, j'aurais pu prendre la fameuse 466, mais j'ai choisi pour vous la K545, mais au piano par Lucas de Bargue.
Lucas de Bargue qui sera l'un des invités de cette Scarlatti Night Fever ce soir à partir de 20h sur France Musique. Merci beaucoup Roselyne de nous avoir mis à l'eau à la bouche. Et d'ailleurs, ce disque de Lucas de Bargue était à gagner aujourd'hui sur France Musique. Il suffisait de deviner le nombre de sonates écrites par Scarlatti. Roselyne, une petite idée?
Non, aucune.
555, bien sûr. C'était tellement facile. Vous avez été en tout cas extrêmement nombreux à participer au concours. Donc les gagnants seront recontactés par email très prochainement. Roselyne, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine,
Saskia. Et puis, merci beaucoup à toute l'équipe qui était à mes côtés ce matin. Marie-Ferdinand, David Travailleur, Guillaume Ledu, Victoria Asper, Stéphane Poitvin et Emmanuel Dupuis. Très belle journée à notre écoute.
À réécouter sur francemusique.fr.